Au doux plaisir de se retrouver. Une émission proposée par le musée Marguerite Audou en collaboration avec Studio 45. Et présentée par Benjamin Chausseron.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour notre émission « Au doux plaisir de se retrouver », épisode 6. Comme vous le savez déjà, notre émission de radio a été créée à l'occasion des 10 ans du musée Marguerite Audou. Mais notre structure n'est pas la seule à fêter son anniversaire en 2025. Rappelez-vous, lors de l'épisode numéro 3, nous avions reçu Laura Bezard à l'occasion de l'anniversaire des gourmandises de Laura, présente à Oison depuis 10 ans. Rappelez-vous également, lors de l'épisode numéro 4, nous avons eu le plaisir de recevoir Laura Capazza-Durand à l'occasion des 50 ans de la galerie Capazza située à Nancy. Eh bien, pour cet épisode numéro 6, nous recevons également une autre structure qui fête elle aussi son anniversaire en 2025. Un partenaire fidèle, un partenaire précieux qui a marqué l'histoire de notre musée Marguerite Audou au cours de ces 10 dernières années. Cet invité, il s'agit de la compagnie Poupérus. Ainsi, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui les deux co-directrices artistiques de la compagnie, à savoir Lucie Comté et Salomé El Haddad Ramon. On n'oublie pas la troisième co-directrice de la compagnie, Caroline Gauzin, que nous saluons à l'instant même. Alors, bonjour à bonjour. Toutes les deux.
Bonjour.
Alors, nous pouvons donc débuter, maintenant que les présentations sont faites, la première partie de notre interview.
Au doux, plaisir de se retrouver, épisode 6, la première partie de l'interview.
Alors, dans cette première partie, je vous propose de parler de nous, c'est-à-dire du musée Marguerite Audou et de la compagnie Poupérus, en mettant notamment en lumière tous les projets que nous avons eus en commun au cours de ces 10 dernières années. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ?
Parfait.
Parfait, ça m'arrange. Alors, tout d'abord, on peut, n'ayons pas peur des mots, évoquer un acte fondateur. Quel est-il ? Eh bien, à la fin des années 2010, quelque chose d'innovant et d'original s'est déroulé et s'est même créé dans la petite commune de Sainte-Motaine, commune de 180 habitants seulement. En effet, la toute première adaptation théâtrale d'une œuvre de Marguerite Audou, à savoir l'atelier de Marie-Claire, a vu le jour dans notre petite commune. Alors, des auditions en décembre 2018 à la tournée du centenaire en 2020, il y a eu plusieurs étapes. Former les comédiens et comédiennes, répéter, sans oublier bien entendu l'avant-première qui s'est déroulée à Sainte-Montaigne le 30 novembre 2019. Eh bien, cette belle aventure est l'acte fondateur de notre collaboration et j'ai eu le plaisir de partager avec vous cette belle aventure à la fois culturelle et humaine. Donc je vous propose de revenir sur ces différentes étapes. Pouvez-vous nous raconter cette belle aventure ?
Tout à fait. Alors ça a commencé, ça s'est lié avec notre arrivée dans le Cher. On est arrivé avec Lucie pour implanter la compagnie à Aubigny-sur-Nère cette même année. Et on a reçu la proposition de la petite commune de Sainte-Montaigne disant « Hey, on a une super autrice qui a écrit un et deux romans notamment importants pour la littérature française qui a été un peu oubliée. Enfin, moi, personnellement, je ne la connaissais pas. Je ne l'avais pas étudiée à l'école. Et il y a eu cette proposition d'écrire une adaptation théâtrale et ensuite de construire une troupe et de former une troupe amateur.
Mmh. Les encadrer.
Tu as cité, Benjamin, les étapes. La première étape, c'était de faire en sorte que ce roman soit une pièce de théâtre. Et donc, la première étape, avant de recruter, c'était
l'écrire.
Et chose qu'on a fait du coup à quatre mains, on est parti avec cette idée que ça nous paraissait assez évident que l'atelier de Marie-Claire avait quelque chose de très théâtral. On est sur un lieu unique,
un huis clos,
dans un huis clos, avec un grand nombre de personnages très attachants, avec un passé, un présent et un futur. Et nous, notre travail était de partir de cette écriture et d'écrire une pièce de théâtre, donc ce qui est vraiment une autre type d'écriture, on va dire que l'écriture narrative du roman. Et donc pour nous, ça a commencé toutes les deux dans un petit grenier avec le trésorier et la compagnie qui nous apportaient des cafés et des thés
et des
bons
gâteaux
fabriqués par la présidente de la compagnie pour qu'on soit dans les meilleures conditions
pour écrire.
On s'est mis vraiment dans une bulle et on a écrit donc l'atelier de Marie-Claire toutes les deux avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme parce que c'était une belle confiance que nous donnait dès notre arrivée la communauté de communes, la commune. Et puis, c'était une chance de travailler tout de suite sur une autrice de qualité. Enfin, ça nous a beaucoup inspiré.
C'était notre première commande et c'est arrivé très vite à notre arrivée. On ne s'y attendait pas vraiment. Et je pense que ça a aussi été pour nous fondateur dans le fait qu'on s'installe. Ça a été important dans notre installation, cette collaboration-là. Et donc, on a écrit et on a essayé, parce qu'on était quand même très attachés au roman Marie-Claire, d'y intégrer dans l'atelier de Marie-Claire des morceaux de narration du roman pour entendre vraiment la langue de Marguerite Audoux, qui est magnifique et très simple et très imagée. Et donc on voulait aussi parler de la Sologne et de Sainte-Montaine dans la pièce, qui est moins évoquée dans le roman L'Atelier de Marie-Claire, parce que ça se passe dans un atelier de couture à Paris, mais on voulait quand même y apporter la partie Sainte-Montaine. Donc voilà, ça a été l'écriture et ensuite les auditions. Les auditions, alors nous,
le casting,
c'était le casting. Et je me souviens qu'on n'était pas très partante pour utiliser le mot casting, parce que nous, en tant que comédienne, ça nous est très peur, le mot casting. Je disais, oh là là, c'est vraiment très stressant. Et
parce que les gens quittaient Paris pour quitter
les castings.
Les castings, sans fin, on n'est jamais rappelé.
Voilà.
Donc un casting, c'était à fuir. Mais tu as eu raison, Benjamin.
Oui, on a fait un casting à la The Voice, quoi.
Le mot casting fait rêver dans nos...
C'est
pour ça que j'ai osé mettre ce mot sur fiche. Voilà.
Mais tu as bien fait, parce que combien de personnes
je sais pas, c'était vraiment
beaucoup, plusieurs dizaines de personnes se sont présentées.
Ouais, c'était vraiment la nouvelle star, c'est-à-dire qu'on attendait, on voyait ces gens arriver et très simplement, ils avaient travaillé, ils avaient appris, et on ne savait pas qui allait arriver. Ça, c'était vraiment super. Et puis, ils étaient dans la salle d'attente et on voyait bien qu'ils répétaient ensemble, qu'il y avait une émulation qui se créait.
Oui, ça a déjà créé un moment.
Super.
Oui, c'était un moment déjà...
Il y a quelques personnes qu'on connaissait peut-être parce qu'on avait déjà ouvert notre école de théâtre et du coup, ils avaient tenté leur chance aussi. Il y avait des personnes que moi, je connaissais parce que moi, je viens de Vigny-sur-Mer et donc je connaissais de mon enfance que j'ai vu réapparaître à mon voisin.
Waouh.
Quand j'étais petite. Donc ça, c'était vraiment très, très drôle. Et puis, il y avait tous les âges. Et tant mieux, parce qu'il nous fallait tous les âges. Et après, ça, c'était vraiment super. Et puis après, il a fallu appeler les gens pour dire qui on prenait.
Oui,
ça, c'était facile. Et qui on ne prenait pas. Et ça, c'était très difficile parce que... Parce que je crois qu'on est persuadé avec Salomé que le théâtre, c'est pour tout le monde et que en fait c'est comment on accompagne les gens vers la scène et comment on se prépare. Mais là, il fallait faire un choix.
On avait 10 personnages et on pouvait pas caster tout le monde. Ça, c'était terrible.
Ouais. Mais ça a été vraiment une belle journée.
Oui.
Et après, on s'est mis au travail. Et là, il fallait aussi une équipe. Et ça a permis de faire un tri aussi. Mais ça, il fallait une équipe qui soit disponible parce qu'on ne monte pas une pièce comme ça.
Ça met
donc
du temps.
Il faut 150 heures de travail. Il faut bloquer tous ces week-ends, les nôtres et les leurs, pendant plus d'un an. Il faut trouver des costumes, il faut les faire. Enfin, voilà, on a travaillé avec un certain nombre de personnes qui nous ont pas mal aidés, comme Marie Martin, par exemple, pour les costumes, des personnes qui nous ont apporté des choses. Mais le travail sur scène, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps d'abnégation. Abnégation, c'est en fait, il faut tout donner. Et c'est très chouette. Oui, c'était très chouette. Voilà, c'est à cette époque-là que j'ai décidé d'habiter à Sainte-Montaigne. Je me suis dit, vraiment, on est bien ici. On va y rester. On va repeupler la Sologne.
On y arrive petit à petit.
Voilà. Et ce qui était assez formidable dans cette aventure, c'est de voir vraiment naître les personnages comme on les avait lus dans le roman. On a mis suffisamment de temps dans la répétition pour que la plus belle des récompenses... Il y a eu deux belles récompenses, je pense. La première, c'est de les voir évoluer sur scène et d'entendre le public dire « Oh, on dirait pas une troupe amateur
oui. ».
Qu'ils soient vraiment prêts. Et ils avaient travaillé, donc ils étaient devenus vraiment très bons. Donc ça, c'était vraiment très beau. Et puis, je me rappelle de Laurence Régnier, maire de Bigny-sur-Ner, qui avait dit que pour elle, c'était le point d'orgue de la saison culturelle. Parce que ça avait permis de partir d'une œuvre du territoire, de réunir des habitants du territoire autour d'un lieu culturel, le musée du territoire, avec une compagnie, un acteur artistique du territoire, et la salle des fêtes, elle était remplie. D'ailleurs, on a dû rajouter des représentations. Et puis après, on s'est lancé dans une tournée parce que évidemment, la salle était remplie parce que le travail de communication en amont avait été super.
Oui.
Parce que le point presse, tu l'avais fait,
ça avait commencé dès les auditions, finalement, la communication. Et puis toute l'année, tu nous as suivis. Et donc les gens se sont intéressés.
De l'évolution.
Ils étaient vraiment à fond dans l'histoire de la troupe aussi. Mmh. Et donc ça s'est vu aux premières à Sainte-Montaigne et aux dates d'après aussi, qui ont toujours été remplies.
Ouais, la salle était trop petite.
Oui.
Bah, ça marchait pas.
Et les membres de la troupe venaient de vraiment plusieurs communes alentours. Donc chaque membre pouvait communiquer dans sa propre commune.
Même plusieurs départements. Hein, il y avait des personnes de Cerdon, il y avait des personnes de la Chapelle. Vraiment, ça a bien rayonné.
Et Sainte-Montaigne était représentée au sein de la troupe. Donc,
bien sûr.
La boucle était bouclée, c'était parfait.
Non, c'était parfait. Et vraiment, ça a été une très, très jolie aventure qui nous a tenu quand même 3 années hein, entre l'écriture, la mise en scène, les répétitions
et la
reprise avec un bon Covid au milieu qui nous a amené vraiment à faire une date mythique à la médiathèque Marguerite Audoux de Paris. Date mythique parce que quand même on n'avait pas le droit de jouer, enfin c'était hyper compliqué, on savait même pas si on avait le droit d'être plus de 2 dans une voiture, enfin si on pouvait prendre les mêmes véhicules pour y aller.
Oui, on a joué
Il y a le fils d'un des comédiens qui nous a réalisé des masques avec marqué l'atelier de Marie-Claire dessus, et on a décidé on ne pouvait pas la jouer, c'était trop compliqué. Par contre on pouvait faire une lecture, enfin très bizarre, c'était la réglementation de cette époque. Et puis l'espace n'était pas assez grand.
Non, c'était une bibliothèque.
Et on a inventé une nouvelle forme qui était la lecture. Et on avait même pensé faire une fiction radiophonique parce que ça marchait super bien. Comme la langue est très belle, retourner à l'écouter comme ça, c'était vraiment super. Il nous manquait un peu la partie striptease des pompiers, enfin striptease imaginé parce qu'il n'arrivait jamais vraiment. Mais c'était vraiment super cette date et en même temps extrêmement bizarre de nous voir tous avec nos masques. Mais on a fait, on est monté à la capitale quoi.
Oui.
Et on l'a joué à quelques rues de.
On l'a joué pour la journée pour le droit des femmes.
C'était organisé dans le cadre de.
Et l'atelier de Marie-Claire, le livre, avait été écrit en 1920. Et donc, c'était la tournée du centenaire, puisqu'il y a eu plusieurs dates en 2020. Mmh. Donc, vous avez aussi joué, je crois, à Sancoing, donc commune où est née Marguerite Audoux. Donc là aussi, c'était très symbolique.
Et l'ouvrage venait d'être réédité.
Oui, tout à fait.
Voilà, dans le cadre, c'était Les Plumées. Voilà,
oui, qui rééditait des autrices oubliées. Voilà.
Enfin, ça, c'est la collection de la maison d'édition Talent Haut, qui avait fait un gros travail pour qu'on redécouvre, notamment en milieu scolaire et pour le public adolescent, un certain nombre d'autrices oubliées. Et on peut vraiment dire qu'elle était oubliée parce que, ayant eu un prix féminin, etc., de son vivant, elle a été... voilà, elle a été connue et j'ai eu l'extrême surprise de découvrir dans les au décès de ma grande tante, hein, 95 ans, on a récupéré des cahiers scolaires. Elle était dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, pas du tout en Sologne. Et je récupère un de ces cahiers scolaires que je lis et la première dictée, je lis les mots et je reconnais les mots. La première dictée, c'était un extrait de Marie-Claire. De Marguerite Audoux, ça veut dire qu'on étudiait et on pouvait donc faire des dictées à son époque de Marguerite Audoux.
On aimerait que ce soit encore le cas en 2025. L'appel est lancé. S'il y a des écoles intéressées pour organiser des dictées, nous sommes preneurs. Alors, donc, un acte fondateur, comme nous l'avons dit, et quelques remerciements s'imposent. Donc, je tiens à citer Julien Guinbaud, qui était à l'époque le responsable du service culturel de la mairie d'Aubigny-sur-Nère, et c'est lui qui m'a fortement conseillé de vous contacter pour mettre en place ce beau projet.
Donc, il a fait nous a entre, fortement conseillé de venir nous implanter à Aubigny-sur-Nère, et donc il a été faiseur de petits miracles quand même là.
Et oui, donc on lui doit beaucoup et on le salue. Alors c'est vrai, quand on est une petite commune de la taille de Sainte-Montaigne, c'est parfois difficile d'un point de vue budgétaire de monter de si beaux projets. Donc je tiens à remercier également tous ceux qui nous ont aidés dans cette belle aventure, notamment la région Centre-Val-de-Loire qui a financé à hauteur de 40% le projet, mais également le département du Cher qui a financé le projet à hauteur de 10%. Donc bien entendu, cela n'aurait pas pu se construire sans la communauté de communes Sauldre-et-Sologne qui coordonne et centralise beaucoup de choses, notamment la communication et les demandes de subventions. Voilà, je tenais à citer ces trois structures, car c'est souvent le cas dans les zones très très rurales. La culture, c'est avant tout une logique de territoire, et quand on regarde tous dans la même direction, eh bien on peut faire de belles choses, et notre projet, je crois, en est un très bel exemple. J'aimerais aussi avoir une pensée toute particulière pour Jean-Bernard Grimaud. Alors Jean-Bernard Grimaud a une histoire très particulière avec le musée Marguerite Audoux en tant que lieu, puisque c'est le dernier instituteur de notre commune de Sainte-Montaigne avant que l'école ne ferme au tout début des années 1990. Et les locaux de l'ancienne école, eh bien ce sont les mêmes locaux où se situe actuellement le musée Marguerite Audoux. Mais ce n'est pas tout, c'est Jean-Bernard Grimaud qui a décidé en tant que maire de Sainte-Montaigne de mettre en place le beau projet, l'atelier de Marie-Claire sous sa forme théâtrale. C'est lui aussi qui m'a donné ma chance en m'embauchant au musée Marguerite Audoux durant son mandat de maire. Donc à double titre, nous tenons à avoir une grosse pensée pour lui lors de cette émission.
Et lorsque j'étais en CE2, un instituteur est arrivé, un très grand avec des lunettes, une moustache et une blouse comme avant, et des craies dans les poches. Mon instituteur de CE2, et c'était Jean-Bernard Grimaud.
Donc nous pensons fort à lui aujourd'hui. Et c'est vrai, vous avez indiqué que l'atelier de Marie-Claire avait eu beaucoup d'importance pour vous par rapport à votre implantation géographique. Et c'est vrai que nous, par rapport au musée Marguerite Audoux, c'est peut-être à partir de ce projet que les gens ont vu le musée Marguerite Audoux d'une façon différente. Cela a permis de développer sa notoriété et on est peut-être devenu plus crédible aux yeux de beaucoup de personnes, parce qu'un petit musée perdu dans une commune de 180 habitants, parfois les gens peuvent nous voir de haut. Et c'est vrai que ce projet a été pour nous comme une rampe de lancement finalement pour tous les projets qui se sont succédés par la suite. Donc voilà, je tiens aussi à vous remercier bien entendu toutes les deux pour tout le travail réalisé en 2018, 2019 et 2020.
Merci.
Mais notre histoire commune ne s'est pas arrêtée là, loin de là. Le Covid est arrivé en 2020. Donc comme vous le savez très certainement, le musée était fermé au public, mais moi je travaillais toujours. Donc il fallait bien que je fasse quelque chose et que je prépare l'avenir entre guillemets. Donc nous avons eu l'idée, avec monsieur le maire de Saint-Fontaine, Jean-Yves Debarre, ancien médecin, d'organiser quelque chose là aussi d'assez original, une thérapie littéraire. Alors une thérapie littéraire dont le budget était de 0 euro. Le principe était simple. Nous avons lancé un appel sur nos réseaux sociaux, mais également dans la presse locale. En effet, on est parti de deux constats assez contradictoires. D'une part, on ne se voyait pas, ni les uns ni les autres. Néanmoins, d'autre part, on éprouvait tous les mêmes sentiments, des sentiments de solitude, des sentiments de peur par rapport aux siens, des sentiments d'ennui. Eh bien, bizarrement, nous étions à la fois très proches les uns des autres, mais très éloignés. Eh bien, nous nous sommes tournés tout simplement vers Marguerite Audoux. Et oui, elle avait la clé. Marguerite Audoux a réussi à poser des mots M-O-T-S sur ces mots M-A-U-X. Donc, nous avons voulu faire la même chose. Nous avons lancé un appel et nous avons dit à toutes les personnes, à tout notre public, vous avez des sentiments similaires aux nôtres. Écrivez votre texte et envoyez-le nous. Donc, vous avez totale liberté par rapport à la forme. Donc, nous avons reçu des bandes dessinées, des lettres ouvertes, des poèmes, des témoignages, des fictions. Les gens pouvaient envoyer leur texte par mail, par messenger, par courrier. L'idée était vraiment de se rassembler. Et on avait lancé à Paris. Dès que nous aurions la possibilité d'accueillir à nouveau un public, eh bien, on allait faire notre première animation. Et cette première animation était un hommage justement à toutes les personnes qui avaient participé, c'est-à-dire une lecture de ces textes que nous avons reçus. Toutes les générations venues de nombreux territoires ont participé, notamment un EHPAD et une école. Nous tenons à les remercier. Donc, bien entendu, comment faire cette soirée de réouverture du musée en lisant ces textes? Eh bien, nous avons tout naturellement fait appel à la compagnie Paupérus. Ainsi, on vous a demandé de sélectionner, de lire et de mettre en scène certains de ces textes. Comment avez-vous procédé pour mettre en place ce beau projet?
Alors, c'était beaucoup de lecture. Parce que finalement, il y a eu pas mal de participation. Et je crois qu'il y a des personnes qui ont un petit peu triché, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des choses qu'ils avaient écrites dans les 20 dernières années. Et donc, du coup, il y avait vraiment des ouvrages très denses, très intéressants, très diversifiés. Et après, c'est après un choix par feeling, par ressenti, par instinct, par lien.
Par lien, oui.
Il y a des
fils. On trouve un fil rouge et on se dit « Ah, ce fil rouge-là est intéressant, donc on va voir quel texte rentre dans ce fil-là. » Et puis parfois on change et donc ça se fait comme ça, les choix.
Alors, et sur le format de la soirée, ça nous a paru assez vite qu'on allait faire vraiment le spleen du dimanche soir, le moment de déprime absolue. On a invité les gens à venir en pyjama. On était nous-mêmes avec des chauds doudous, des pilou-pilou et des choses avec des oreilles, voilà, et beaucoup de poils. Et on a aussi invité, alors il y avait la compagnie pro qui était présente, nous on est 8 comédiens en fait, comédiennes dans la compagnie, mais on a également proposé à d'autres personnes avec qui on avait travaillé, notamment certaines personnes qui étaient dans l'atelier de Marie-Claire ou dans nos écoles de théâtre pour venir lire. Voilà. Donc on a réuni et on a créé des liens, on a fait des mises en scène, c'était très diversifié. C'était comme une soirée où il fallait que les gens soient confortables, bien, cocon. Et en même temps, on a aussi demandé à Benjamin s'il voulait faire quelques acrobaties météorologiques, voilà, auxquelles il s'est parfaitement bien prêté, pour avoir des moments évidemment aussi très drôles. Et on a imaginé ça vraiment comme passons une soirée à déprimer ensemble. Et il y avait aussi de très jolies choses, il y avait des choses très émouvantes, des moments, voilà, je crois qu'on a fini en karaoké, non?
Ah oui, il me semble.
Ah, on a chanté à la fin.
Il me semble qu'on a fini en karaoké.
Il y avait quelques guitares, je crois.
Oui, voilà, on avait rajouté.
On a chanté.
Ah oui, on a chanté, après la guitare, voilà, oui. On a fini. Il manquait les chamallows et le brasero, mais on n'a pas le droit de faire ça à l'intérieur.
Effectivement.
Mais c'était très sympa. C'était un concept, voilà. Et c'est bien, en fait, de réunir autour d'un concept. Puis il y avait pas mal de monde, en vrai. Ça a plutôt bien réuni.
Nous, on était beaucoup de la compagnie. On n'est pas tous du coin, donc rares sont les occasions où on peut se retrouver tous ensemble. Et ça a été une des occasions de se retrouver aussi.
Une belle soirée de retrouvailles, voilà. Pour beaucoup de personnes. C'était le 26 septembre 2021.
Voilà, Chamallow, soirée Chamallow. Ouais, et on s'est retrouvé après cette soirée littéraire pour quelque chose un peu dans cette veine-là. Quand on a prêté avec Caroline, on a prêté nos voix au texte de Gérard Fléchel aussi également.
Tout à fait, en octobre 2022.
Voilà, on a également, ça c'était une proposition de collaboration comme ça, hein, c'est... parce que c'est des personnes avec qui on a pas mal cheminé.
Un spectateur assidu, voilà. Qui vient voir tous nos spectacles et qui écrit.
Et donc voilà. Et donc c'était vraiment une volonté de faire entendre ses poèmes. Et je crois que c'est à partir de, enfin c'est vraiment au moment où ça faisait des années qu'il écrivait. C'est à partir de ce moment-là où il a commencé à éditer et à être plus lu et à proposer au grand public en fait ses écrits. Et nous on les a mis en voie aussi avec Caroline. Dans cette idée, évidemment, il y en avait beaucoup trop, mais
Fait un loto.
Voilà, il y a un texte, une idée, un format. Et c'est vraiment comme ça qu'on voit notre travail de metteur en scène et d'interprète, mais surtout de metteur en scène par rapport à ça, c'est-à-dire de concevoir des choses qui peuvent, des entrées qui peuvent être plus ludiques. Je me rappelle qu'on a lu des textes avec, on devait tirer au hasard des émotions différentes et lire le même texte, mais en étant traversé. Et donc ça donne des sens complètement différents à l'écrit. On a fait des moments participatifs, des choses très simples et purées. Et en fait, ça, je trouve que ça met en exergue toute la beauté du spectacle vivant. Il y a l'écrit, il y a les mots, et ça passe à travers deux filtres. Le filtre du metteur en scène qui va y mettre sa créativité, ses métaphores, son esthétique, voilà, son originalité, et le filtre du comédien qui met toute sa sensibilité, quoi. Et les mots prennent des couleurs très variées. Voilà.
Effectivement. Un très beau souvenir, là encore. Alors, ainsi se termine la première partie de l'interview. Donc, je tiens à préciser que, au-delà de nos projets communs avec le musée Marguerite Audoux, vous êtes également intervenu plus généralement dans la commune de Sainte-Montaigne à l'occasion de plusieurs représentations. Je tiens notamment à citer donc l'Oiseau Bleu en décembre 2023 et également le Révisor en novembre 2024. Donc, la belle aventure se poursuit.
On espère. 2026.
Alors, avant de passer à la seconde partie de l'interview, petite transition poème. Et en l'honneur de nos projets communs que nous avons évoqués, nous écoutons tout de suite un poème lu par Gérard Fléchel, intitulé, bien évidemment, Marie-Claire. Nous l'écoutons.
Audoux, plaisir de se retrouver, épisode 6, l'instant poème avec Gérard Fléchel.
Marie-Claire. Dans la maison de Marguerite, la page blanche s'étale pour s'offrir à la jeune provinciale. Soudain, les crayons s'agitent, les mots elle va les faire chanter, écrire, raturer et puis recommencer. Pour son roman esquissé, de l'atelier elle aimera parler, des filles et du métier, couturière. Elles vont de l'amour à l'enfer, passer d'un galant à de vieilles rombières, couturière. Elles étaient les filles de Paris, dans la maison de Marguerite, flotte un parfum de fémina, en bergère elle se revoit, en Sologne, tu es toujours chez toi, Sainte-Montaigne, tu lui ouvres les bras, dans ton musée, là-bas.
Merci beaucoup Gérard, donc poète local, originaire de Clémont, en Sauldre et Sologne.
Audoux, plaisir de se retrouver, épisode 6, la première partie de l'interview.
Nous pouvons maintenant passer à la seconde partie de l'interview. Après avoir parlé de nous, parlons uniquement de vous, c'est-à-dire la compagnie Poupérus. Alors, 2025 est une année importante pour vous,
également, puisque vous fêtez, comme nous, vos 10 ans. Alors, 10 ans, c'est à la fois court et long. Donc, pouvez-vous nous raconter en quelques mots l'histoire de la compagnie Poupée Russe et nous résumer en quelques étapes ces 10 dernières années écoulées?
Alors, première étape, c'est la rencontre
oui, c'est un collectif, une compagnie.
Donc, Lucie, Caroline et Salomé.
Il faut se réunir.
Voilà,
il faut se rencontrer.
La première rencontre, c'est nous trois dans la même classe, dans la même école de théâtre, dans le 18e, l'école Artefact. A priori, au départ, on n'était pas certaines de travailler ensemble.
Non.
Pas certaine du tout. J'avais 19 ans, Lucie 29. Moi, je me disais, oh là là, c'est une grande personne.
Moi, je travaillais déjà, j'étais en reconversion professionnelle.
J'avais une autre vie avant, j'étais un bébé. Et à quel moment on pourrait travailler ensemble? Et puis finalement, avec l'école, on a travaillé ensemble au sein de l'école. Parce que c'était une école où on mettait en scène beaucoup de projets. Et donc, on avait, en fonction de nos envies, on pouvait s'investir plus ou moins dans la création. Et on s'est rencontrés artistiquement à l'école.
On s'est rencontrés dans la création, dans l'action, dans le jeu. Vraiment, c'est une rencontre artistique à la base. Et qui petit à petit et c'était la même chose avec Caro. Salomé et Caro étaient plus amis. Moi, l'idée, c'était de rencontrer des partenaires. Et c'est vrai que j'avais déjà monté ma boîte avant et tout ça. J'avais déjà une expérience professionnelle assez longue. Et je voyais pas l'amitié comme un critère de base pour monter une compagnie. Je savais qu'il fallait s'entendre sur des objectifs. Et on avait l'air de s'entendre sur des objectifs. Et là, typiquement, il fallait aussi s'entendre sur la proposition artistique, sur nos sensibilités, sur ce qu'on aime, sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qui nous fait crier, pleurer, ce qu'on a envie d'amener au plateau, comment on a envie de vivre notre vie d'artiste, est-ce qu'on veut faire des carrières individuelles, est-ce qu'on la voit en collectif, ça a été vraiment la base en fait de pouvoir partager. Et puis à chaque année, chaque projet, chaque fois, on se rend compte que qu'on est vraiment fait pour travailler ensemble.
Oui.
Du coup, ça fait 10 ans.
Ouais.
Voilà.
Donc, après...
Il y a d'autres étapes, évidemment, mais c'est une collaboration qui ne cesse de s'épanouir et se solidifier et s'agrandir. Et en fait, on ne fait que s'agrandir, mais pas s'agrandir parce qu'on a une folie des grandeurs, on a une folie des grandeurs, on a envie de faire des grandes choses, des belles choses, on a envie de le faire avec le plus de monde possible, ça c'est sûr. Réunir, c'est voilà, plus il y a de monde sur scène, plus on est content. Ça c'est sûr, mais ça ne fait que grandir, et donc ça n'a fait que grandir dans le nombre de personnes, puisque on était toutes les trois, on a monté notre premier projet, la première équipe qu'on a recrutée, c'est la compagnie actuelle aujourd'hui.
Oui.
On ne s'est jamais quitté en fait.
Il n'y a eu de départ.
Il n'y a eu aucun départ.
Il y a eu des arrivées.
Mais voilà, la première équipe qui s'est retrouvée sur scène, c'est l'équipe d'aujourd'hui qui a évolué en parallèle, mais ensemble dans les directions, dans des directions complètement compatibles, artistiquement et j'ai envie de dire même aussi politiquement, parce que c'est important de savoir quelle place on veut avoir dans la société, ce qu'on a envie de défendre ensemble, et on continue avec des réflexions qu'on poursuit au fur et à mesure du temps ensemble. Et puis on a eu la chance, dès le deuxième projet, de rencontrer Léandre aussi, qui est arrivé, qu'on n'avait pas rencontré à l'école, qui était le 8e membre artistique de la compagnie, et on chemine, et on, voilà, et le voilà, caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Il n'y a pas de chemin, c'est en marchant qu'ensemble on le crée. Voilà.
D'accord.
Et on a marché de la capitale jusqu'ici.
Jusqu'à la Sologne.
Oui.
On a marché, on a quitté la capitale. Et ça, c'était nécessaire, il fallait partir.
D'accord. Et pourquoi Aubigny-sur-Mer?
Parce que, comme Lucie le disait, elle est née, elle a grandi à Aubigny. Et donc, c'est déjà, c'est ce le premier lien, là.
C'est la base.
Voilà, la base.
Je confirme.
Quand on a monté notre premier projet, Lysistrata, on cherchait des lieux de répétition. Et à Paris, c'est compliqué, cher, pas pratique. Et Lucie nous avait parlé de cette salle à Aubigny, la Forge, que peut-être éventuellement on pourrait avoir. Voilà. Et puis.
J'ai fait quelques rendez-vous.
Voilà,
localement. Parce que, quand même, bon, c'est le monde merveilleux du spectacle vivant, mais c'est extrêmement difficile de vivre de ce métier. Et si on a quitté Paris, c'est parce qu'il était extrêmement difficile de vivre de ce métier comme on avait envie de le faire et de s'épanouir artistiquement et financièrement dans ces conditions-là. Et donc, quelque part... Et puis, il y avait aussi un point très important. Je me rappelle de Salomé, on était en train de jouer Lysistrata, notre premier spectacle, dans un théâtre. On devait être à la 50e représentation de ce spectacle. Et je vois Salomé dire « Ouais, c'est bien, mais en fait, il manque quelque chose, quoi. » C'est-à-dire, j'arrive, je joue, il y a quelques Parisiens qui sont devant moi, et puis c'est fini. Et en fait, je vois le théâtre comme quelque chose de plus grand, qui doit être plus utile à la société, qu'on doit pouvoir partager au-delà du moment sur scène, quoi. Donc ça, c'était important de pouvoir prolonger. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on fait énormément de médiation, on en a parlé même avant, mais il fallait prolonger. Donc toi, tu avais déjà cette envie-là. Moi, je venais du monde de l'insertion professionnelle, je savais que c'était des outils qui étaient hyper importants pour ça, et la notion d'utilité sociale, j'ai bossé 10 ans pour Emmaüs, c'était un leitmotiv. Et donc ça nous a quand même beaucoup porté, cette envie de pouvoir participer faire participer le plus grand nombre.
Oui. Et par la pratique. Voilà. Assez vite, on s'est dit, l'ouverture culturelle, au contraire même, ça passe pas que par aller au théâtre et faire venir les gens dans le lieu théâtral. Et au contraire, c'est nous déplacer, aller vers et pratiquer. Parce que une fois qu'on a pratiqué et qu'on est monté sur scène et que c'est possible et que c'est super, on se dit, peut-être que je peux aller en voir. Et donc, ça
se nourrit.
Ça ouvre des portes aussi. Ça permet aux gens qui ne sont jamais entrés dans un théâtre de se dire, vu que moi, je suis montée sur scène, je peux peut-être aller en voir maintenant. Et donc, ça communique comme ça. Et par la pratique...
Aujourd'hui, on connaît plus de personnes avec qui on pratique. Voilà, on a dans nos médiations, ça fait 10 ans, on a travaillé avec plus de 4000 personnes que de personnes qui vont au théâtre. Enfin, qui vont dans des salles identifiées théâtre, quoi. Voilà, régulièrement. Donc ça, c'était important pour nous que ce soit populaire au sens de partager avec le plus grand nombre. Et ça, il fallait quitter Paris pour ça. Enfin, vraiment,
c'était obligatoire. On n'avait pas d'ouverture parisienne sur la transmission, la médiation. On n'avait pas de contact, de lien.
Et donc, très dense, Paris. Pourquoi pas? Bien sûr, parce que déjà, je connaissais plus de monde. Et donc, comme s'il est très difficile de vivre de ce métier et d'en vivre vraiment à temps plein, et c'est nécessaire de le faire à temps plein parce qu'on ne peut pas écrire, créer, transmettre, développer sa pédagogie, s'enrichir, devenir formateur en entreprise. Enfin, tout ça, on ne peut pas le faire si on le fait sur un temps qui est réduit ou sur un temps de hobby du week-end, quoi. Et donc, du coup, c'était vraiment important de pouvoir s'y investir à fond. Et en arrivant sur un territoire qui était déjà un peu connu, avec un certain nombre de jalons, de personnes qui pouvaient nous accueillir, mine de rien, on a tout de suite été accueillis par la ville d'Aubigny, qui nous a immédiatement donné les moyens d'ouvrir l'école de théâtre, c'est-à-dire de mettre à disposition
une salle,
comme on peut faire pour les associations, mais c'est quand même hyper important, il faut le dire. Enfin, c'est parce qu'il y a des mairies, etc., qui se motivent, parce qu'il y a des personnes au conseil départemental qui croient vraiment en la culture et qui nous soutiennent et qui nous permettent de travailler, qui nous proposent des projets. Enfin, comme tu nous as proposé, comme Julien avait proposé comme projet, qui ont des envies. Aujourd'hui, on a des interlocuteurs au conseil départemental qui nous contactent en disant « il faut qu'on fasse ça, c'est important pour les publics lycéens ou collégiens, enfin collégiens en l'occurrence, voilà. » Et ça, d'avoir des interlocuteurs comme ça, hyper engagés et compétents, c'est super important, quoi. Et c'est la base, en fait, de notre travail. Comme on sort d'un stage cinéma à l'espace jeune de la communauté de communes des Terres du Haut-Berry, bon, bah, il y a deux animateurs à fond engagés qui font en sorte de trouver le budget. Les jeunes, ils font une semaine de cinéma, ils écrivent, ils réalisent un film, tout est fait. Mais ça, c'est parce qu'il y a des êtres humains qui font en sorte que ça advienne et qui ne se disent pas que la culture, ça doit être rentable, parce que ça n'est pas rentable. Ça ne sera jamais rentable, comme l'école n'est pas rentable et comme la santé n'est pas rentable. Par contre, c'est nécessaire pour grandir, s'épanouir, découvrir de nouveaux horizons, apprendre à vivre ensemble, coopérer, rêver. On passe notre vie à regarder des films, parler des séries, lire des bandes dessinées. Enfin, tout le monde, on passe notre vie dans la fiction, parce que la fiction, elle nous fait grandir, elle nous inspire, elle nous amène... Elle nous fait avancer, en fait. Et du coup, ça fait avancer. Et ben oui. Et du coup, il faut des personnes qui se disent, ben, en fait, c'est pas rentable. C'est pas équilibré. Mais par contre, c'est rentable pour ma société. Enfin, c'est pas leur société. Pour la société.
Notre société.
Pour notre société.
Et depuis quelque temps, vous êtes également implantée dans le Loir-et-Cher, et plus précisément à Salbris.
Tout à fait.
Comptez-nous oui. Cette étape supplémentaire.
Ben, on continue à
le chemin.
Caroline, Caroline est, quand on est arrivé à Aubigny, était restée en région parisienne, puis elle nous a rejoint dans le Cher et. Au même moment, on avait un ami de Salbris qui faisait partie d'une troupe théâtrale et qui nous disait oh, je crois que notre prof mettant en scène va partir, peut-être que éventuellement. Et donc, on s'est dit ah, bah
allons-y.
Et donc, Caroline, accompagnée de Léandre, la première année, ont ouvert l'école de théâtre Poupérus à Salbris. C'était il y a 3 ans,
plus
4 ans,
en fait, ouais. C'est ça,
4 ans.
Et en fait, c'est le même démarche, enfin ouais. C'est le même, ouais. c'est la même idée, c'est le même principe que ça, c'est-à-dire que en vrai, tant qu'on a des forces vives, on peut aller n'importe où, quoi. Et là où il n'y a pas, et construire des projets, et au-delà de l'école de théâtre, parce que l'école de théâtre, elle s'inscrit à Salbris comme elle s'inscrit à Aubigny, avec bon, voilà, des cours toute l'année, un spectacle à la fin de l'année, mais c'est aussi, quand on est sur un territoire, ça a été par exemple à Salbris, si je prends que Salbris cette année, ça a été l'organisation d'une Starac, avec l'espace jeune donc de la Comcom de Salbris, donc une semaine vraiment condition Starac, comédie musicale, chant, danse, etc. Donc avec on a un très gros partenariat avec avec l'école de musique, avec Jean-Marie Menu qui est chef d'orchestre, qui est directeur de l'école de musique et qui a vraiment envie de réunir les artistes. Et donc ça c'est possible. Donc ça a été la Starac, ça a été 5 classes théâtre à l'école Yves Gauthier qui ont donné lieu à un festival jeune, joué par des jeunes, tout petits, voilà. Mais bon, c'est énormément aussi de travail avec toutes ces classes. Ça a été des interventions en EHPAD, des spectacles qui ont été joués, des ateliers danse en EHPAD. C'était super, quoi. C'était vraiment super avec l'organisation d'un bal. À notre sauce. C'est par exemple, c'est donc avec les plus jeunes, avec les plus âgés, ça a été une représentation de François Saplicao qui parle donc de l'histoire des Hmongs, là aussi un exilé très présent à Aubigny dans la région centre, et on a pu donc inviter des personnes du CADA, du centre d'accueil des demandeurs d'asile de la ville de Salbris, pour pouvoir échanger sur les parcours d'exil et être là, et ça a été un moment très fort. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Enfin, en fait, être sur un territoire, c'est plein de possibilités. On peut en avoir voilà, partout, et en tout cas, nous, on a la ressource pour répondre aux sollicitations ou faire des propositions aux interlocuteurs, quoi. Donc voilà, c'est pas juste une ville, c'est l'animatrice du centre des jeunes, c'est la directrice de l'école, c'est beaucoup de femmes.
Oui, l'animatrice de l'EHPAD.
L'animatrice de l'EHPAD, voilà. C'est toutes ces personnes qui se motivent encore une fois pour que ça vienne. Et ça peut être démultiplié sur plein de territoires.
Mmh. Oui, Salbris, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que c'est parce que c'était cette ville-là, à ce moment-là, ça aurait pu être une autre ville et on aurait
créé, trouvé à n'importe quel territoire, en fait.
Mmh. Oui.
Eh bien, justement, nous avons évoqué le Cher, nous avons évoqué le Loir-et-Cher. Étant donné que nous sommes Studio 45, avez-vous déjà eu des projets dans le Loiret ?
Mais bien sûr.
Beaucoup.
Mais on espère encore plein. On aime bien aller jouer à l'autre bout de la France, mais on aime être aussi proche. Parce qu'en fait, c'est déjà un voyage d'être à une... Alors, c'est sûr que quand c'est au bord de la mer, il y a un petit côté sympa pour les tournées. Mais on a fait une très belle tournée de l'Oiseau Bleu, très très belle tournée de l'Oiseau Bleu. On a joué pour toutes les écoles du Gâtinais, ouais. Donc c'était vraiment une très très belle tournée. Enfin, je sais pas, il y a eu 3000 enfants. Enfin,
je sais plus. C'était
beaucoup. C'était beaucoup.
C'était 12 super. Dates.
Enfin, pas 3000 le même jour, parce que ça, c'était vraiment beaucoup.
Mais c'était très rigolo.
On a un très joli spectacle qui a été créé à Aubigny, du coup, il y a 6 ans, et qui continue à tourner, qu'on a beaucoup tourné. On a beaucoup travaillé. On sort de 3 très belles années de collaboration avec l'école Gaston Gallou d'Orléans-la-Source. Donc là, on est sur un dispositif qui s'appelle la Cité éducative, avec des financements. Alors tout ça, c'est des choses qui sont financées, hein, évidemment, mais enfin, c'est des dossiers qui sont montés avant toute chose. Et beaucoup de femmes institutrices motivées pour ça. Et c'est donc les agences nationales de la cohésion des territoires, pour le développement, la ville d'Orléans. On est intervenu pendant 3 années, on a vu les 300 gamins de l'école.
Et c'était un cycle sur le bonheur.
Voilà, et on a travaillé sur le bonheur ensemble, c'était magnifique. Oui. La première année, c'était le bonheur autour de l'Oiseau Bleu. La deuxième année, on a travaillé sur être bien dans ses baskets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc nous, on a un spectacle Jog Jog, qui est un spectacle de danse qui part de l'idée de « Ok, ça c'est mon corps, ça c'est mes moves, j'en fais quoi ?» Je construis ma danse. Où, quand, avec qui. Et voilà, donc c'est très interactif. Donc on a travaillé avec eux. Et la troisième année, on a réalisé un film sur la beauté. Qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce que ça me fait, la beauté. Et on a un très très joli film qui s'appelle Source de beauté, réalisé avec et pour eux, qui va commencer à être diffusé en festival, en lieu, etc. En fait, c'est les enfants qui parlent avec leur cœur de ce qu'ils trouvent beau. Et ce qui est génial, c'est qu'on est à Orléans-la-Source ou à Aubigny ou ailleurs.
Et il y a toujours le coucher du soleil.
Et il y a toujours le coucher du soleil. Et il y a toujours ma famille.
Oui.
Voilà ce qui est beau. Un pique-nique. Le vent qui s'engouffre sous la nappe. Et voir les vers chanter. Des choses si simples.
L'idée de ce film aussi, c'était de... Parce que l'école Orléans-la-Source est sur ce qu'on appelle la dalle. Et on avait envie de...
L'architecture très particulière.
Voilà, on avait envie de sortir de l'école pour aller sur la dalle et voir. Et on a monté une équipe de chercheurs de beauté. Et l'idée, c'était d'aller...
The beauty hunters.
De trouver la beauté sur la dalle et de voir ce qui était beau. Et donc, il y a eu aussi des images tournées
du quartier.
Et quand on a diffusé le film devant les enfants et leurs familles, on a des familles qui sont venues nous voir en disant « Ah, je ne m'étais pas rendu compte que c'était hyper beau, cet endroit. » Et donc, c'était aussi l'objectif de...
De valoriser
l'endroit où il...
De porter un regard, un regard différent, un regard peut-être plus doux sur une réalité qui est parfois un peu dure.
Mmh. Oui, j'imagine.
Le 45, on adore.
L'appel est lancé. Alors, avant de clore notre interview, quelle est votre actualité ? Avez-vous des projets ? Enfin, je connais déjà la réponse. Avez-vous des dates à nous donner pour cette fin d'année 2025 ? Et avez-vous déjà des idées pour 2026 ?
Alors, on commence par les dates.
Plein de choses.
On finit par les idées.
Plein de choses.
Comme vous voulez.
Allez. Ouais.
Les dates.
Ouais. L'agenda. Alors, si vous voulez découvrir le travail de la compagnie et de tous ses complices, il y a une première date à Salbris, justement. C'est un concert. Un concert avec des musiciens magnifiques, donc dirigé par le chef d'orchestre Jean-Marie Menu. Un concert avec vraiment tout type de musique, avec une harmonie très très joli entre ces 14 musiciens et nous-mêmes qui sommes danseuses, comédiennes, chanteuses dans le concert, et on met en scène ce concert. C'est à Salbris. C'est les 17 et 18 octobre à la salle Georges Villepoux. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'activité compagnie pro, c'est les artistes pro de la compagnie avec les musiciens pro
de l'école de musique,
les professeurs de l'école de musique qui eux aussi jouent partout
par ailleurs
et parfois sur la planète. Je le dis. Voilà.
Ensuite, on a en octobre aussi, pendant les vacances, des stages. On aura deux stages en même temps. Un stage théâtre Halloween au Carrois. Donc les deux stages se passent à Mentoux Salon. Et l'autre stage sera Plan Cabane. C'est construction de cabane. Avec différents matériaux.
Donc c'est Quentin de la compagnie qui va accompagner, essayer de réaliser, il est scénographe à la construction des corps, réaliser les rêves fous de cabane des participants.
Ça se passera du 20 au 24 octobre à Mentoux Salon au Carrois.
Les 20, 21 et...
Ouais, pardon.
Pardon ? Coupé.
Vas-y.
T'as dit organisé par ?
Organisé par le Carrois.
Par le Carrois à Mentoux Salon.
Voilà.
18. Ça cher. Amène tout seul.
Amène tout seul.
Avec Quentin et Caroline. Enfin, avec Quentin Boineau et Caroline Gossard. Alors, en même temps, dans le sud du département, vous aurez la joie de découvrir, dans la voix des bibliothécaires, le texte de Karine Serre, le roman qui s'appelle Rose immobile. Donc je mets en scène, ça c'est très intéressant, c'est un dispositif mené par le département du Cher qui accompagne les bibliothécaires dans la lecture à voix haute, avec je pense l'objectif vraiment de diversifier leurs possibilités d'organisation d'animation au sein des bibliothèques et de se sentir de plus en plus à l'aise dans ce format de lecture à voix haute. Il y a déjà les Kamishibai qui s'étaient pas mal développés. Et donc là, je mets en scène donc Rose immobile avec les bibliothécaires de Foissy, Vignon et Vouzeron, Vignoux-sur-Barangeon et Vouzeron, les 20, 21 et 22 octobre. Et donc, on vous fera découvrir Rose immobile. Vous pouvez apporter votre chaise et votre plante préférée. Indice chez vous. Et après, Noël. C'est bientôt Noël, quoi. Après, ding, ding, dong, ding, dong.
C'est Noël. La ville devant.
C'est la tournée de Il était une fois Noël.
Le 21 novembre à la salle des fêtes de Pigny. Le 12 décembre à la salle Aragon de Saint-Florent-sur-Cher. Le 14 décembre à Sury-Préléré. Et enfin, les 21 et 23 décembre au château des Stuarts à Aubigny-sur-Nère, où le spectacle a été créé.
Voilà, et là, ce sera les vacances de Noël et on ira tous se reposer après avoir bien mangé et bien bu. Et en parallèle, la compagnie lancera d'autres petites choses, parce que là, ce sont les dates, ça veut dire que ce sont des spectacles qui sont terminés. mais comme on aime bien en créer pas mal, par an, on crée à peu près 14-15 spectacles différents. Soit avec la compagnie pro, soit avec les groupes avec lesquels on intervient, en scolaire, etc. Donc en parallèle, on a des choses qui vont se lancer. Évidemment, le spectacle des écoles de théâtre, ça c'est fin mai et fin juin, il faut absolument découvrir. On a très envie là de faire tourner Zai 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 Zai, qui est la nouvelle comédie de la compagnie. Avis à toutes les communes de tous les départements du Loir-et-Cher, Cher, Loiret, tout ça. C'est extrêmement drôle, c'est une comédie absurde, il y a 14 comédiens sur scène. Comment dire ? Il faut voir ça.
Drôle.
C'est très très drôle.
C'est très drôle.
C'est très,
ça
très
fait
drôle.
Du bien.
Ah oui, ça fait du bien. Et en même temps, ça ne parle pas de rien. Oui. Voilà. Et c'est important aussi en ce moment, c'est l'adaptation de la bande dessinée de Fab Caro. Qui s'appelle Zai 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 Zai. Et donc ça, c'est vraiment faire tourner des nouveaux spectacles. On a aujourd'hui 5 spectacles en tournée. On va relancer tout un temps de travail, nous, sur le théâtre équestre avec Salomé. puisqu'on a créé Sensible l'an dernier, qui est un spectacle équestre, donc avec des chevaux,
tout à fait,
et aussi des humains
qui partagent la scène.
Voilà, et le spectacle parle de la relation. Il ne s'agit pas de faire des acrobaties, des cabrioles et des voltiges et de la voltige. Parce que nous n'en sommes pas capables, mais ce n'est pas le sujet. On parle et on traite, on esthétise, on recherche. Qu'est-ce qui nous lie à cet animal, le cheval, avec toutes les passions, les peurs, les rêves de puissance multiséculaire. Pourquoi ? Il y a c'est vraiment cette question au cœur. Donc on a écrit au plateau avec les chevaux, avec des jeunes cavalières, avec des stagiaires, grâce à un financement obtenu par la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques, les Olympiades culturelles. Et donc là on cherche de nouveaux partenaires pour développer Sensible. Donc là on relance le travail avec Salomé, on continue à se former dans les arts équestres et donc ça, c'est vraiment un très long projet, parce que eh bien, il faut des chevaux, il faut des gens, il faut nous, il faut faire tout ça, et il faut de l'argent. Voilà, c'est un appel si vous voulez nous accueillir. Et en fait, le principe de Sensible, c'est super parce que c'est vraiment le principe de la compagnie, quoi. C'est-à-dire qu'on crée
à partir de
témoignages,
et d'un lieu de rencontre, de chevaux qu'on rencontre aussi. Ouais. Parce que l'idée, c'est pas de venir avec nos chevaux, c'est de travailler avec les chevaux du lieu.
Donc, on a joué dans trois lieux différents.
On a joué avec trois cavaleries différentes.
C'est super parce qu'on va chercher ce qui est de l'ordre du lien universel, reproductible, de ce qui est complètement éphémère, spontané et qui vient de juste le contingent ou l'immuable. Enfin voilà, dans cette relation à l'animal et même dans le comportement du cheval, puisque nous on change les groupes, on découvre à chaque fois des nouveaux lieux. Donc voilà, ça c'est le projet Sensible. Et puis là, après, il y a un nouveau projet qui va naître. Nous sortons de notre première semaine de résidence avec la compagnie pour le nouveau spectacle professionnel de la compagnie qui réunira tout le monde. On ne s'est pas tous retrouvés depuis Habiter le Temps en 2019.
Voilà.
Donc là, on se retrouve
tous sur scène.
Voilà, tous sur scène et on va. Et du coup, on a décidé, comme on est tous sur scène, de faire une comédie musicale. Voilà, donc on se lance dans la comédie musicale. Ça sortira. On ne sait pas, et on a beaucoup travaillé. Et encore une fois, s'il y a des territoires qui veulent nous accueillir, c'est avec plaisir pour qu'on puisse travailler.
Eh bien, c'est noté. En tout cas, ça donne envie. Et on suivra, bien entendu, attentivement l'évolution de tous ces beaux projets. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez noté toutes les dates. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude. Grâce à notre podcast, vous pourrez faire pause et noter ainsi toutes les dates citées par Lucie et Salomé. N'hésitez surtout pas. Alors, notre interview se termine, mais l'émission, elle, se poursuit encore quelques minutes. En effet, ici, les invités sont rois et les invités sont reines. Donc l'une d'entre vous va avoir dans quelques instants un petit privilège. Attention, je sais que vous aimez jouer sur scène, mais est-ce que vous aimez jouer tout court ?
Mais bien sûr, bien sûr.
Ah, bon, alors, tant mieux.
Bien joué.
J'ai une petite question à vous poser, une seule. Une réponse devra m'être donnée, une réponse chiffrée. Celle qui sera la plus proche de cette bonne réponse aura un petit privilège. Donc vous jouez une contre l'autre.
On joue contre un,
c'est dur.
Ah non, c'est pas dur. On joue ensemble,
on peut pas. On joue ensemble, on donne un chiffre commun.
Et après, on joue.
Alors. Non, vous êtes obligé de me donner deux réponses différentes. Oui, parce que la plus proche, on ne peut recaser qu'un privilège.
D'accord, ok.
Attention, une question qui concerne, bien entendu, Marguerite Audoux.
Mais regardez comment dans cette société, on essaie de mettre les gens les uns contre les autres. Ils pourraient coopérer, et non, il faut qu'ils soient en
sinon, tu sais, on donne le même chiffre, mais à un d'écart, comme ça, on sera quand même les plus proches.
Si on joue la stratégie. Alors, je pense que Marguerite Audoux n'a quasiment aucun secret pour vous.
Alors là, c'est très présomptueux de dire qu'on sait tout. Hein. Alors, vraiment pas. Hein.
Alors, bon. Si c'est des dates.
C'est des dates en plus.
C'est une catastrophe.
Presque. Alors en fait,
Pour faire simple, vous avez quitté Paris pour la Sologne, et Marguerite Audoux, elle, elle a fait le contraire. Elle a quitté la Sologne pour rejoindre Paris, ce qui est très symbolique. Ma question est la suivante. Combien de temps a-t-elle habité à Paris? Il me faut un nombre d'années, et celle qui sera la plus proche.
Tellement longtemps, mais tellement longtemps. Je veux dire, elle a passé sa vie à Paris après.
Elle est montée genre à 20 ans. Genre,
même pas.
Alors, qui se lance pour la première réponse? Elle est morte. La seconde pourra se positionner.
Attends. Elle avait genre 18 ans. Elle est morte, elle devait avoir au moins 68 ans quand elle est morte. Donc, elle a fait au moins 50 ans à Paris.
Ouais.
Sachant qu'elle avait sa truc de... Tu vois, ils partaient habiter, ils avaient leur maison de vacances, là. Ah oui, attends, on pensait au 45. On est au studio 45.
Vous pensez que j'ai poussé le vice jusqu'à là?
ce serait un truc que tu...
Belle vision que vous avez de moi.
Ouais.
Alors, qui me donne la première réponse chiffrée? Combien d'années Marguerite Audoux a-t-elle vécu à Paris?
55
jusqu'à 68.
Je sais pas, ouais...
Je sais plus.
Alors,
51.
Alors, Salomé nous propose 51.
C'est beaucoup.
Et Lucie nous propose
49.
49 pour Lucie. Alors, roulement de tambour, attention. Marguerite Audoux a quitté la Sologne en 1881 à l'âge de 18 ans.
C'était bon là-dessus.
Elle arrive à Paris en gare d'Austerlitz.
Ouais. La même année.
Ensuite, elle adorait la mer, donc elle a souhaité passer ses derniers jours à Saint-Raphaël dans le Var.
Bien sûr oui. Qu'elle est partie à Saint-Raphaël.
Et oui, bien sûr. Alors, elle est décédée à Saint-Raphaël en 37 et elle avait passé quasiment 2 années à Saint-Raphaël dans le Var. Elle a donc quitté Paris en 1935. Au total, elle a donc vécu 54 années
pas mal.
À Paris. Et petite précision, elle a vécu notamment de 1908 à 1935 dans le 14e arrondissement de Paris. Donc, 54, donc vous aviez dit 45 par rapport à Studio, c'est l'inverse, c'est 54-45, mais ce n'était pas volontaire de ma part. Donc, Lucie ayant proposé 49 et Salomé 51, Salomé remporte ce jeu. Très bref. Et cette victoire te donne le droit à un petit privilège. On a une petite tradition ici dans notre émission Au doux plaisir de se retrouver. C'est conclure de façon musicale nos différents épisodes. Et donc, Salomé, puisque tu as gagné, tu as le choix de la chanson de conclusion de cette émission. Soit une chanson qui a compté pour toi à titre personnel, soit tout simplement ta chanson préférée. Tu as totale liberté.
Pour clore le truc sur les poupées russes, là?
Voilà. Après, bien entendu, après la chanson, vous aurez le dernier mot de la fin également. Roulement de tambour, attention. La chanson choisie par Salomé sera...
Freed from Desire de Gala.
Eh bien... Une réponse néanmoins collective. Donc nous l'écoutons, magie de l'enregistrement. Nous écoutons cette chanson tout de suite.
My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na 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 na. We'll be right back.
Plateau. Inutile de vous dire que dans les studios d'enregistrement, cette chanson a mille ambiances. On dansait un petit peu sur nos chaises, je vous l'avoue. Alors, Lucie, Salomé, je tiens vraiment à vous remercier d'une part pour tous nos projets communs qui se sont déroulés au cours de ces 10 dernières années. C'était vraiment un véritable plaisir de travailler avec vous. Et je tiens également à vous remercier d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode numéro 6 de notre émission Au doux plaisir de se retrouver. Avant de conclure cette émission, je vous laisse bien entendu le mot de la fin.
Coin, coin.
Eh bien, merci beaucoup. C'était la compagnie Poupée Russe pour l'épisode numéro 6 de l'émission Au doux plaisir de se retrouver. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous très prochainement pour l'épisode numéro 7. Où ça ? Eh bien, sur Studio 45, bien sûr. Au revoir.
C'était Au doux plaisir de se retrouver. Une émission proposée par le musée Marguerite Audoux et présentée par Benjamin Chausseron. À très vite pour un nouvel épisode sur Studio 45. Retrouvez dès à présent cet épisode en version podcast au www.studio45-radio.fr.